Alors, est-ce que le message du christianisme mérite vraiment qu'on en fasse tout un plat? Je veux dire, la foi chrétienne, c'est quelque chose d'archaïque et de dépassé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le christianisme, en plus, c'est quoi sinon simplement un instrument d'hégémonie politique, franchement? Ou encore, pour citer François Cavanna, chroniqueur à Charlie Hebdo, mort en 2014, le christianisme, je cite, n'est qu'une secte qui a réussi commercialement parlant. Alors franchement, est-ce que le message du christianisme mérite vraiment qu'on en fasse tout un plat? Alors peut-être que vous avez quand même une opinion un peu plus positive du christianisme, hein. Ouais, l'histoire de Jésus, l'Église, Noël, Pâques, l'Évangile, tout ça, c'est chouette, c'est sympa, c'est une tradition sympa. Mais bon, sans plus, ça s'arrête là. Ou peut-être que vous pensez que le christianisme, c'est une religion honorable parmi d'autres, une bonne religion, et puis il y en a d'autres. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Alors, si vous ne voyez pas pourquoi on devrait faire tout un plat du christianisme, je me permets de vous dire que c'est parce que vous ne savez pas exactement ce que c'est que le christianisme. Dans un instant, on va lire un court texte biblique qui va nous aider à vraiment prendre la mesure de l'importance exceptionnelle et même incontournable de ce qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Alors, évangile en grec, ça veut tout simplement dire bonne nouvelle en français. La bonne nouvelle qui est au cœur du message biblique et donc du message chrétien, du message du christianisme, et qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, on va lire ce texte dans quelques instants, mais pour que vous compreniez le contexte, d'abord, je voudrais vous expliquer que le récit qu'on va lire se déroule au 1er siècle à Jérusalem. Donc c'était il y a longtemps, et c'était assez loin d'ici, lorsque les apôtres de Jésus, les personnes que Jésus a désignées comme ses apôtres, lorsque les apôtres de Jésus se mettent à expliquer le sens de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection aux gens de leur époque. Et donc ils commencent à Jérusalem, là où ils habitaient. Et ici, en l'occurrence, dans le texte, on va lire la conclusion d'un grand discours que l'apôtre Pierre, Saint Pierre en personne, a prononcé devant les habitants de Jérusalem, qui sont essentiellement constitués d'Israélites à cette époque-là, des Juifs, et vous allez remarquer que l'apôtre Pierre les appelle collectivement la maison d'Israël. Et on va voir ensuite la réaction, après cette conclusion, la réaction des auditeurs, suivie de quelques instructions de Pierre. Et toute la leçon de ces quelques versets, on va dire que 6 versets, donc vous voyez, c'est pas très long, non, même pas 6, 4 versets, c'est pas très long. Et toute la leçon de ces 4 versets, c'est la suivante. L'évangile, c'est-à-dire le message central de la Bible, le message central du christianisme, l'évangile est une annonce extraordinaire qui appelle une réponse extraordinaire. Donc lisons le texte qui se trouve dans un livre qu'on appelle le livre des Actes, qui rapporte globalement ce qui se passe pendant que les apôtres, justement, pendant qu'ils se mettent à proclamer la parole de Dieu, quand ils se mettent à expliquer le sens de la venue de Jésus et de son œuvre aux gens de son époque. Donc c'est un livre qui couvre un petit peu toute cette période. Et on va lire vers le début de ce livre, chapitre 2, à partir du verset 36. C'est donc l'apôtre Pierre qui est en train de conclure son discours ici. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est tout ce qu'on va lire pour aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier brièvement. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Nous reconnaissons que c'est ta parole, c'est toi qui as inspiré ce texte. Et par le moyen de ce texte, tu comptes maintenant nous édifier, tu comptes nous communiquer ta vérité. Alors Seigneur, fais-le maintenant de manière efficace, sous l'action de ton esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. L'évangile est une annonce extraordinaire qui appelle une réponse extraordinaire. Et la première chose que ce texte nous amène à comprendre, c'est que tous les êtres humains devraient se sentir concernés au plus haut point par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut parler de l'évangile comme d'une annonce extraordinaire, au sens le plus fort du terme, une annonce extraordinaire. Alors qu'est-ce qui se passe dans le texte? Vous l'avez vu, versets 36 et 37, l'apôtre Pierre, ici en conclusion à ce discours qu'il a fait devant les habitants de Jérusalem, il fait une déclaration fracassante qui bouleverse complètement ses auditeurs. Comment expliquer la réaction de ces auditeurs qui ont le cœur, d'après le texte, vivement touché et qui disent à Pierre, mais que ferons-nous, frères, que ferons-nous? C'est un cri du cœur, c'est un cri presque désespéré. Que faire? Alors comment expliquer leur réaction? Eh bien, il faut comprendre que Pierre ici, il dit quelque chose qui est très significatif pour ses auditeurs quand il dit que Jésus est le Christ. Et le mot Christ est simplement un autre mot qui veut dire Messie. C'est du grec. Ça veut dire Messie. Et donc, pour comprendre à notre tour pourquoi cette déclaration est fracassante, il faut comprendre de manière plus large quelles étaient les attentes qui reposaient sur cette personne, ce personnage du Messie, dans la mentalité des Israélites de cette époque. Qu'est-ce qu'ils se disaient, eux, quand ils entendaient cette expression Messie, quand ils pensaient au personnage du Messie? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Alors, pour faire simple, le Messie, c'était en quelque sorte le super-héros que Dieu devait envoyer à un moment donné dans l'histoire pour remédier, tenez-vous bien, à tous les dysfonctionnements de notre nature humaine et du monde. C'est pas rien. Pour replacer ça dans le contexte de la Bible, notamment de l'Ancien Testament, que les Israélites de l'époque des apôtres connaissaient bien, c'était leur Bible à eux, c'était la Torah, la Bible des Juifs, ben il faut reconnaître que la Bible fait d'abord un constat réaliste. Les choses vont mal chez l'homme et dans le monde, comme le dirait Louis Bertignac dans une chanson célèbre, « Quelque chose en toi ne tourne pas rond ». La Bible offre aussi non seulement fait un constat réaliste, mais elle offre aussi une explication réaliste de cet état de fait. C'est que l'être humain, d'après la Bible, cherche à vivre dans l'autonomie plutôt qu'en relation avec Dieu. Autrement dit, l'homme s'est coupé de Dieu, et c'est l'homme qui en porte entièrement la faute et qui en subit les conséquences. Mais non seulement la Bible fait un constat réaliste, et la Bible offre une explication réaliste de ce constat, mais en plus, elle propose une solution réaliste à ce problème. C'est que Dieu a voulu rétablir cette relation perdue avec l'homme en délivrant l'homme de sa faute. Et pour cela, Dieu a décidé de payer à ses frais la dette morale de l'homme. Il a voulu, en quelque sorte, prendre en charge, lui-même, Dieu a voulu prendre en charge le coût de la délivrance de l'homme et de son rétablissement et de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il a voulu payer en quelque sorte la rançon de la libération de l'homme. Et c'est là que le Messie entre en jeu. Le Messie, d'après la Bible, c'est donc cette personne hors pair, ce super-héros, si je puis m'exprimer ainsi, que Dieu avait promis d'envoyer pour faire ce qui était nécessaire, pour réaliser tout ça au profit des gens qui lui feraient confiance. Et Pierre, ici, dans le texte qu'on a lu, il déclare devant tous les habitants de Jérusalem, en tout cas ceux qui étaient réunis devant lui ce jour-là, il déclare que ce Messie, qu'ils attendaient depuis si longtemps, c'est Jésus. C'est Jésus que les Israélites ont voulu crucifier quelque temps auparavant, et ils ont réussi d'ailleurs à le faire crucifier. Et Pierre déclare aussi que sa mission en tant que Messie, Jésus, l'a réalisée justement en mourant et en ressuscitant. Et ça, c'est plutôt une référence au contenu de tout le discours qu'on n'a pas lu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la mission du Messie s'est réalisée par la mort et la résurrection de Jésus? Eh bien, tout simplement parce que c'est par sa mort que Jésus a réglé justement la dette morale des croyants à leur place. Il s'est substitué. Il a pris la place, si vous voulez, il s'est substitué aux croyants pour subir à leur place les conséquences ultimes du fait d'être séparé de Dieu. Et c'est ce qu'il a subi sur la croix. Il y a une parole très fameuse de Jésus sur la croix où il s'exclame lorsqu'il est au plus fort de son agonie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à ce moment-là, Jésus fait l'expérience des conséquences ultimes de cette séparation qui existe entre l'homme et Dieu. Mais il subit cela à la place des croyants, à la place de ceux qui lui feraient confiance. Et il est ensuite ressuscité le troisième jour, comme le dit le Credo et comme le dit la Bible, pour montrer qu'il a été plus fort que la faute des hommes, plus fort que les conséquences des fautes des hommes. Et donc Jésus, étant vivant aujourd'hui, invite les hommes à entrer au bénéfice de ce qu'il a accompli. Il est vivant aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne se trouve pas sur terre vivant aujourd'hui, bien qu'il soit ressuscité corporellement, physiquement. Mais qu'est-ce qu'on commémore le jeudi de l'Ascension, ce jeudi, qu'est-ce qu'on commémore? On commémore l'Ascension de Jésus auprès de Dieu dans le ciel. Jésus est vivant aujourd'hui. Et parce qu'il est ressuscité, il peut inviter les hommes à entrer au bénéfice de ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi je disais que la première chose que ce texte voulait nous faire comprendre, c'était que tous les êtres humains devraient se sentir concernés au plus haut point par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous vous sentez concerné aujourd'hui? Imaginez que vous soyez en train de regarder les infos, comme tous les soirs vous regardez les infos TF1, sauf que cette fois, Claire Chazal annonce le premier titre en disant « Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'est passé un drame d'une rare ampleur aujourd'hui à Lyon 7e. » Vous vous sentiriez concerné? Imaginez qu'un jour encore vous jouiez à Euromillions pour tenter de remporter le jackpot. 100 millions d'euros, enfin je ne sais pas combien. Eh bien, à l'heure où ils diffusent le résultat du tirage, est-ce que vous vous sentiriez concerné? Imaginez encore que vous receviez une alerte sur votre smartphone qui dit « Marine Le Pen élue au second tour de l'élection présidentielle ». Vous vous sentiriez concerné? Maintenant, imaginez que vous assistiez à un culte dans une petite église protestante, à l'occasion d'un baptême, et que le pasteur vous dise « Jésus est venu de la part de Dieu pour prendre en charge le coût de la délivrance des hommes, pour que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu pour l'éternité ». Vous vous sentiriez concerné? Ou plutôt, est-ce que vous pensez que vous devriez vous sentir concerné? Je pense que la réponse coule de source. D'accord, mais après, est-ce que ça suffit de se sentir concerné par l'Évangile? Eh bien, la deuxième chose que ce texte nous amène à comprendre, c'est que quand une personne se fie à la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, eh bien, ça engage toute la vie de cette personne. Quand une personne se fie à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, ça engage toute la vie de cette personne. Voilà pourquoi on peut dire que l'Évangile, qui est une annonce extraordinaire, eh bien, appelle aussi une réponse extraordinaire. Alors on a vu combien l'auditoire de Pierre est complètement bouleversé quand l'auditoire en question prend conscience de ce que Jésus a accompli en tant que Messie. Mais ensuite, dans le texte, l'apôtre Pierre va expliquer ce que ça devrait entraîner dans leur vie. Il parle notamment de se repentir, d'être baptisé, de recevoir le pardon de ses péchés et d'être rempli du Saint-Esprit. Alors on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce qu'il dit ici, bien que ce soit très très intéressant, ça mériterait qu'on le fasse, mais on n'a pas le temps et ce n'est pas l'occasion ce soir. Mais ce que le texte nous montre surtout ici, c'est que la vraie foi entraîne des conséquences manifestes et même plutôt radicales. Demander pardon à Dieu, dit Pierre. C'est ça que ça veut dire se repentir. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu et être pardonné par Dieu. C'est pas rien. Recevoir le baptême qui entérine la promesse du pardon de Dieu. Et puis, recevoir, dit-il, le don du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir dans sa vie la présence vivifiante de Dieu qui nous aide à marcher avec lui en nouveauté de vie. Waouh, c'est pas rien. Quand une personne se fie à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, ça engage toute la vie de cette personne, vous voyez. C'est un peu comme un déménagement, en fait. C'est un peu comme un déménagement. Imaginez qu'un jour, vous découvriez qu'on vous a légué un merveilleux palace dans un pays de rêve, sans doute un petit pays dans le nord de la Grande-Bretagne. Je dis ça parce que j'ai des racines écossaises, si vous ne compreniez pas pourquoi je faisais la remarque. Bref, on vous lègue un merveilleux palace dans un pays de rêve et vous décidez de tout plaquer pour déménager là-bas, pour y vivre dorénavant. Ce serait assez radical, non, comme changement dans votre vie. C'est une décision qui engagerait sans doute beaucoup de choses pour vous dans votre vie. Ça engagerait votre façon de vivre au quotidien, ça engagerait votre carrière professionnelle, votre compte en banque, vos normes culturelles, votre alimentation, votre vie sociale, votre langage et évidemment votre famille, si vous avez une famille. Ça engagerait tout ça, au moins. Ça engagerait vos enfants et leur avenir. Et la Bible compare la foi à un déménagement. Ben oui. La Bible dit que avoir la foi, c'est comme emménager dans la maison de Dieu, ou bien dans le royaume de Dieu, pour citer juste quelques expressions qu'emploie la Bible. Et bien sûr que si le fait de déménager dans un autre pays, ça engage pratiquement toute la vie d'une personne, à plus forte raison, le fait de déménager dans le royaume de Dieu. Ça engage de façon encore plus manifeste et encore plus radicale, n'est-ce pas, toute la vie des croyants, avec leur façon de vivre au quotidien, leurs normes culturelles ou éthiques, leur vie sociale et leur famille, et notamment leurs enfants et leur avenir. Et l'apôtre Pierre ajoute au verset 39, le dernier verset qu'on a lu, qu'il y a comme une invitation qui existe à emménager dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire à entrer au bénéfice de ce que Jésus a accompli, tout simplement. Et cette invitation d'après Pierre, Dieu l'adresse à tous ceux qui sont là devant lui, ce jour-là, tous ceux qui sont là et qui entendent parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre dit qu'elle est adressée aussi à leurs enfants, cette invitation, et à tous ceux qui, même au loin, dit-il, même en France, en 2015, c'est nous là qui sommes sous-entendus dans ce verset, hein, tous ceux au loin que Dieu appellera, c'est-à-dire tous ceux, même au loin, même ici aujourd'hui, qui entendront parler de la personne et de l'œuvre de Jésus. Alors je me permets de vous dire, avec une simplicité, mais néanmoins une certaine gravité, une certaine solennité, je me permets de vous dire que Dieu vous invite aujourd'hui à lui faire confiance. Cette invitation vous est adressée. Faites-lui confiance en reconnaissant ce qu'il a accompli par Jésus. Dieu vous invite, et même j'ajouterais qu'il vous appelle, car c'est le terme qu'emploie l'apôtre Pierre ici, il vous appelle à déménager chez lui, ou plutôt à emménager chez lui, pour ainsi dire, en y engageant toute votre personne. Et pour cela, il suffit de vous attacher à lui dans votre cœur, il n'y a pas de prix à payer, hein. Le prix a déjà été payé, c'est Jésus qui l'a payé. Il suffit de s'attacher à Dieu, dans son cœur, de lui demander pardon pour ses fautes, et de chercher à mieux connaître Dieu, de jour en jour, par la lecture et l'étude de la Bible, par la prière, et en fréquentant d'autres chrétiens, notamment dans le cadre de l'Église. Donc est-ce que le message du christianisme mérite vraiment qu'on en fasse tout un plat? Est-ce que le message du christianisme mérite vraiment qu'on en fasse tout un plat? Vous avez vu, je l'espère, que bien souvent, on sous-estime le caractère absolument incontournable du christianisme, parce que tout simplement, on n'a pas tout à fait compris ce que c'était que le christianisme. Ce texte, je l'espère en tout cas, a pu remettre les pendules à l'heure pour nous tous, en nous montrant que l'évangile, donc, qui est ce message central du christianisme, l'évangile est une annonce extraordinaire qui appelle une réponse extraordinaire. Nicolas et Hélène, ils vont en témoigner dans quelques instants de cette réalité. Et si Loïs va être baptisé aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait partie du folklore du christianisme, et encore moins par superstition, comme si le baptême allait produire quelque chose de magique chez Loïs. Non. C'est simplement parce que Nicolas et Hélène reconnaissent précisément ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Jésus, le Messie, a réalisé tout ce qui était nécessaire pour que ceux qui s'attachent à lui soient réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et quand on se fie à cette grâce de Dieu, ça engage toute la vie d'une personne, y compris ses enfants et sa vie de famille. En quelque sorte, le baptême de Loïs, c'est le signe qu'elle emménage avec ses parents dans le royaume de Dieu. Quoi de plus logique d'ailleurs? Quand on emménage quelque part, on ne laisse pas ses enfants à l'ancien logement ou sur le bord de la route, n'est-ce pas? La prière des parents de Loïs, c'est que Loïs grandisse dans la foi et dans l'amour pour Dieu. Mais leur prière, c'est aussi que le baptême de Loïs attire notre attention, à nous tous, sur la grâce incontournable de Dieu, manifestée en Jésus-Christ et offerte gratuitement à tous ceux qui lui font confiance. Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu de nous rappeler ce soir que la personne et l'œuvre de Jésus sont incontournables. Aide-nous tous, Seigneur, à en prendre vraiment la mesure et à en tirer les conséquences. Amen.